une planète, il faut entendre que cette planète est arrivée au terme de son service. Donc au terme de sa course, au terme de son emploi, au terme de son utilité. Lorsqu'une mère a donné naissance à son enfant, elle est exaltée. Sa maternité est exaltée. Elle n'est plus en train de porter un fœtus, elle devient de nouveau un être autonome de l'enfant. Elle a d'autres fonctions, mais l'exaltation qui vient du fait qu'elle avait la possibilité d'être mère, l'exaltation qui fait qu'elle a réalisé cette possibilité pleinement par la naissance de l'enfant, exalte la mère. Le maître d'école qui, à la fin de l'année, n'a plus rien à apprendre à sa classe, qui a parfaitement absorbé tout ce qu'il savait, de sorte qu'on peut dire que la classe en sait maintenant autant que lui, quand il boucle sa classe à la fin de juin, eh bien, le maître est exalté si la classe a passé tous les examens. Il a fini, il a joué son rôle. Il l'a joué tellement parfaitement, il n'a plus rien à leur dire. Pour cette classe-là, il n'y a plus de maître. Et quand il n'y a plus de maître pour une planète, eh bien, alors, celle qui... alors, elle est exaltée. Voilà l'exaltation. Elle n'est pas dans un certain degré du zodiaque, l'exaltation. Elle n'est pas dans un certain degré d'un signe. Tout ça, c'est encore de la fantaisie. C'est le signe lui-même, tout entier, qui est en jeu dans l'exaltation. C'est le signe tout entier qui est en jeu dans l'exaltation. Et, comme par exemple, le 29e degré du Sagittaire, c'est le degré du Sauveur. Et il n'y a plus rien à sauver après le 29e du Sagittaire. Le salut se faisait par le signe du Sagittaire. Eh bien, c'est la fin, c'est le salut complet. Le 29e du Sagittaire, c'est le degré du Sauveur. Le 29e du Poisson, c'est le degré de Marie. Le 29e de la Vierge, c'est le degré de Marthe. Et le 29e degré de la Vierge, c'est le degré de Marthe. Le 29e degré du Poisson, c'est le degré de Marie. Et le 29e degré du Sagittaire, c'est le degré du Sauveur. Et alors là, vous avez la position exacte de l'opposition et des deux carrés. Car voyez-vous, Jésus se tourne son visage vers Marie. Et Marthe tourne son visage vers Jésus dans l'histoire. Elle regarde là-haut, n'est-ce pas? Mais Jésus tourne son regard vers Marie, qui est l'autre carré, qui est le carré dextre. Et Marthe, naturellement, au 29e degré, représente ce qu'on appelle l'apothéose de l'inconséquence, puisqu'elle va être parfaitement capable, au moment de la discussion la plus poignante, de remarquer qu'il y a un bouton qui est tombé de la boutonnière de sa sœur ou d'elle-même ou de Jésus, n'est-ce pas, et s'arrêter à la moindre petite chose, et tout couper, n'est-ce pas. Elle a d'ailleurs interrompu la conversation pour rappeler à sa sœur qu'il y avait de la cuisine à faire. On a fait l'histoire. C'est l'apothéose d'inconséquence, le 29e degré de la Vierge. Les 29e degrés sont des épitômes de valeurs, bonnes ou mauvaises, suivant que c'est négatif ou positif. Ainsi, le 29e degré du Sagittaire, c'est donc l'épitome, on dit en français l'épitome des pépés, l'épitome du sauveur, du salut. Et l'opposition Marthe-Marie est représentée ainsi. Alors, l'exaltation, c'est tout le signe. Et j'ai parlé des exaltations, j'ai parlé certainement beaucoup d'entre vous m'ont dû entendre parler des exaltations des planètes dans certains signes. Et ce soir, alors, je prends la définition d'exaltation, puis ensuite je prends Neptune, l'exaltation de Neptune. Je ne peux pas refaire tout un cours, toute une leçon sur Neptune. Mais je veux simplement dire ici, et que l'exaltation de Neptune est nécessairement dans le Sagittaire. Elle ne peut pas être conçue ailleurs, que c'est une aberration, n'avoir rien compris au zodiaque, ni à la signification des planètes, que de mettre une exaltation de Neptune ailleurs. Les livres courants l'ont mis un peu partout dans le zodiaque.
En français, normalement.
Non, mais, usuellement, vous voulez dire. Le mot normal n'a rien à faire ici. Usuellement, on le met dans le... Quelques-uns l'ont mis dans le lion, oui, c'est ça. Eh bien, quand ça montre qu'on n'a pas du tout saisi le sens du Neptune. Car voici le Neptune, n'est-ce pas? Son dessin est extrêmement simple et d'une éloquence formidable. Il est le demi-cercle. D'abord, il est le demi-cercle. Il est le demi-cercle. Remarquez que tout le symbolisme planétaire se réduit toujours à des combinaisons de cercles et de lignes, c'est-à-dire de cercles et de croix. Que toutes les planètes se démontrent les unes des autres par le jeu des cercles et de la croix. Et alors, le cercle le plus haut de tous les cercles, c'est le cercle dit Neptune. Vous avez le demi-cercle dit Neptune, le demi-cercle de Mercure, n'est-ce pas? C'est le plus petit des demi-cercles. Le demi-cercle de Neptune, c'est le plus grand des demi-cercles. C'est le plus grand des demi-cercles. Or, voyez, dans le diagramme courant, on le représente ainsi. On le représente ainsi. Voilà. Il aura le bras de croix, là, qui descend ici. Et on lui donnera même le bras de croix horizontal. Ce qui est logique. Ce qui est logique, il faudrait que je passe déjà un quart d'heure rien qu'à représenter pourquoi ce bras est là, pourquoi ça est là et pourquoi ça est là. Et je pourrais faire toute la soirée rien que le démontage de ce diagramme. En principe, c'est la même histoire que Vénus, n'est-ce pas? De nouveau, le cercle. On met la croix dessous pour une démonstration en surface, alors qu'on veut vraiment dire que la croix est dedans. N'est-ce pas? Or, dire que cette croix est en dehors et que ceci n'est pas fini, que le demi-cercle n'est pas achevé, c'est indiquer qu'en effet, il y a encore la croix. Que la croix n'a pas encore été assimilée par le cercle. Et que ceci ne peut entrer en ça qu'à mesure que ça s'arrondit toujours davantage. Voilà. Voilà pour Neptune. Et Neptune représentant alors ici le cercle complet, doit nous représenter ce qu'on appelle un le tout. Ou le centre et la périphérie de tout. Du tout, du tout. D'un tout relatif, le nôtre par exemple. Ce point le plus élevé, cet ensemble sera parfaitement un et parfaitement vivant dans son unité, dans son harmonie interne, le plus haut ou le plus profond de notre âme, n'est-ce pas? C'est notre Neptune, ça. C'est ça le tout intérieur le plus vaste duquel notre être. Notre cheminement, notre croix dépend. Notre croix, là voilà. Car elle descend, et quand vous faites descendre cette croix, vous allez tout d'un coup découvrir que toutes les autres planètes représentent les vertèbres de cette croix. Vous n'avez qu'à la descendre, et vous aurez toutes les planètes en vertébration de cette croix. Car prenez le Neptune, décomposez-le, et vous aurez toutes les planètes. Recomposez toutes les planètes, et vous aurez Neptune. C'est une formule. C'est une formule algébrique, ou c'est une formule de symbolisme géométrique. Bon, maintenant remarquez ce qui se passe. Je refais ça comme ça. Et alors, au lieu d'avoir la barre entièrement dehors, je m'en vais la mettre ici et davantage dedans. Et puis j'en fais un autre. Et cette fois-ci, il n'y a plus de barre dehors. Elle est entièrement dedans. Le moment où la barre est rentrée totalement dans le cercle, c'est l'exaltation de Neptune. Quoi peut servir Neptune plus loin? Neptune a atteint son but, qui est de faire rentrer l'univers en lui. Qui est rentré le monde inférieur à lui en lui. C'est la rentrée dans le sein du Père. C'est la rentrée dans le sein du Père. Et alors c'est représenté là, forcément, symboliquement aussi, par la croix qui est à l'intérieur du cercle. Tout est dit. Tout est fini, dit Jésus. Tout est dit, tout est raconté. Les temps sont révolus. Le temps, c'était le mouvement par le verbe de la croix. Le verbe, c'est la seconde personne de l'être, de l'essence. Et bien maintenant, la seconde personne est rentrée dans l'essence, il n'y a plus de temps. Et nous sommes maintenant dans le principe même. Voilà. Voilà l'idée. Alors vous voyez ce mouvement de montée de cette barre chaque fois un peu plus grand jusqu'à ce qu'elle soit absorbée complètement. Voilà ce que veut dire l'exaltation graduelle de Neptune. Et qui travaille à ça? Mais la seule puissance qui peut travailler à ça d'une façon directe et foudroyante, c'est Jupiter. Donc c'est Jupiter, voilà pourquoi il est le prince des dieux dans le Panthéon. C'est Jupiter, c'est Zeus, dont la signification occulte est bien plus grande que la signification courante, puisqu'il est en même temps le prince du pôle Nord, qu'il représente la puissance de l'axe même de la Terre, puisque la Terre là, tourne, l'axe de la Terre c'est un axe entre le pôle Nord et le pôle Sud, et que la neuvième maison est analogique au pôle Nord, et que la troisième maison est analogique au pôle Sud. Là, voilà la chose. Alors maintenant vous avez compris, vous allez commencer à comprendre que le Sagittaire, le Jupiter, il représente la puissance qui descend de Dieu, il représente la puissance qui descend non pas du Fils de Dieu qui est le Soleil, c'est le Capricorne ça. Et alors Saturne travaille à ça, à faire le cheminement du Fils de Dieu à la Terre. Ça c'est le Capricorne, mais ça c'est le zénith à midi. Mais ceci, c'est l'énergie d'un autre polygone, c'est l'énergie du pôle Nord. Or, l'énergie du pôle Nord, c'est l'énergie la plus sacrée de toutes. Et voilà, pas pour rien qu'on a l'étoile polaire et qu'on cherche toujours, et qu'on dit ne pas perdre le Nord, n'est-ce pas? Ne pas perdre le Nord. Eh bien, c'est Jupiter qui est l'agent de transmission, de propulsion, de l'énergie du feu du Sagittaire, du feu divin par excellence, beaucoup plus grand que le feu du lieu, que le feu même, que ce fameux feu qui brûlait dans le buisson ardent qu'a contemplé Moïse et duquel la voix de l'Éternel a parlé. Ce n'est pas la voix du soleil, ça. Mais à qui parlait la voix de l'Éternel? La voix de l'Éternel parlait au soleil. Car il fallait le soleil pour que l'Éternel parle. Car l'Éternel ne parle qu'à son Fils. Dieu ne parle qu'à son Fils. Et c'est son Fils qui transmet ce qu'il a à dire à la terre. Dieu même ne peut parler qu'à son Fils. Et de lui, la dégradation hiérarchique à la terre. C'est la différence qu'il y a entre Capricorne et le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est la voix de Dieu. C'est dans le Sagittaire qu'Élie est porté au ciel par les chevaux de feu, le chariot de feu. Et c'est là que l'homme, l'intelligence de l'homme rencontre celle de Dieu. Non pas celle du Fils de Dieu, mais celle de Dieu. Et voilà l'histoire. Alors maintenant, vous allez voir comment l'histoire se développe. La parabole qui a l'air si innocente, l'enfant prodigue. Qu'est-ce qu'il a dit? Il était parti de la maison paternelle. Et puis il est allé manger de la vache enragée. Pour finir, il a mangé de la vache enragée. Alors il a eu assez. Il a dit, oh, là, je retourne à la maison paternelle. Ça représente quoi? C'est le mouvement de remonter de la troisième maison à la neuve. Dans la troisième maison, l'intelligence de l'homme mange la vache enragée. De cela, je vais vous donner la démonstration diagrammatique dans un instant. C'est jamais dans la troisième maison qui est la plus dangereuse de tout le zodiaque, qui est celle qui est l'enfer du zodiaque, qui correspond au pôle sud. C'est la troisième maison qui est la maison la plus dangereuse du thème, car c'est la maison de la folie. Et nous allons voir ça dans un instant. Voilà pourquoi les gens qui ont Pluton à la pointe de Troie, qui ont le poisson maître de Troie, et un thème très affligé et très dominé par Pluton, sont des gens dont la moitié de l'existence est une vie de possession. Ils ne sont pas maîtres de leur mental, parce qu'ils ne sont pas même maîtres de leur système nerveux, du système nerveux volontaire. De ça, je vais vous faire la démonstration tout à l'heure, parce que ça va faire ressortir de nouveau et la signification de Troie, et la signification de Mercure, et la signification de Jupiter, et la signification de Neptune. Vous avez la fameuse histoire. Alors oui, je disais, l'enfant prodigue dit, je m'en vais retourner au père. C'est ce qu'il fait.
Mais croyez-vous que le Père attend qu'il revienne ?
Jamais de la vie.
Le Père le voit revenir à lui, est impatient, et dans sa joie, le Père sort de son palais et descend joindre, rejoint son fils à mi-chemin. Le mi-chemin, c'est le Sagittaire. L'intelligence de l'homme est face à face avec l'intelligence de Dieu, celle que Dieu manifeste vis-à-vis de lui, n'est-ce pas ? C'est dans le Sagittaire. Voilà pourquoi la neuvième maison représente la pensée abstraite, représente la métaphysique, représente la philosophie et le jugement suprême. C'est voilà les raisons qui font ça de la neuvième maison. Or, avant d'aller à l'autre pôle, au sud, je vais compléter ce pôle nord. Je vais compléter ce pôle nord. Comment voulez-vous que le Sagittaire ait cette signification? Que la neuvième maison, qui est le Sagittaire, ait cette signification? À quoi peut servir la neuvième maison? Comment s'est-elle constituée? D'où vient-elle, en principe? D'où est sa nécessité? Sa nécessité est celle-ci. Elle est tout au fond très simple. C'est que la neuvième maison, la voilà, c'est la maison neuf. Cette neuvième maison, elle file. Idéalement, elle file. Or, celle-ci, idéalement, file, mais attention, nous ne sommes pas sur le même plan maintenant. Ceci est représenté en plan. Rappelez-vous toujours que le zénith est là. Mais que le pôle est vraiment là. Dans une autre direction que le midi. Or, si ceci file, elle file au soleil. Où ceci peut-il filer? Il file au super-soleil. Et il représente, ceci représente le rapport, ou le point de départ du rapport de la Terre elle-même au Soleil autour duquel, voilà le super-soleil, je fais deux cercles et une barre dessous. Le Soleil autour duquel notre Soleil, à son tour, tourne dans le sens converse celui des aiguilles du monde. D'où toute l'histoire de la précession des équinoxes. D'où les progressions secondaires directes. Ils sont liés à ce mouvement-là, un jour ou un an. Ça ne s'explique pas autrement. Alors, la neuvième maison n'est pas du tout intéressée au soleil. Elle n'est certainement pas intéressée à la lune. Elle s'en moque éperdument. Ça, ce n'est pas son domaine. La lune est tout en bas dans le thème. Elle est là, tout en bas. Tout en bas. Elle représente ce que, par l'action de tout ceci, la Terre va avoir comme espace vital dans lequel elle va grandir et accomplir sa propre mission face à l'univers de la troisième maison auquel je vais venir tout à l'heure. Alors, ici, le super-soleil, et idéalement, cette pointe de la neuf représente un axe de l'attribut du soleil qu'on appelle la Terre au dieu du soleil qui est le super-soleil. Le soleil tournant autour de ce soleil, en 25 920 ans, qui représente l'année des dieux, et qui représente la découpure en 12 du zodiaque du super-soleil. De sorte que les airs, poissons, taureaux, béliers, verseaux, ne sont pas autre chose que les maisons du super-soleil par lesquelles, tous les 2160 ans, le soleil passe comme un satellite, une planète lui-même du super-soleil. Vous suivez un maître, vous suivez donc le Christ ici, si vous voulez. Vous ne suivez le Christ que parce que lui suit son Père. Il n'est pas le Père, mais il le représente. Il est son Fils unique, il est l'expression unique, et dans la mesure où l'expression est portée sur nous, et nous ne pouvons voir le Père que par le Fils, mais nous suivons le Fils là où le Fils va, parce que nous savons que le Fils va au Père. Lui tourne autour de son principe. Et nous tournons autour de son Fils, nous, enfants de la Terre et enfants de la Lune, nous tournons autour de lui parce que lui tourne autour de son Père. Mais les gens ne tournent pas autour de son Père, nous le lâchons. Le moi, qui est donc l'ascendant, l'ego, alors qui est très mêlé au mouvement de la lune aussi, le moi, la croix cardinale, le moi doit tendre de conscience, doit découvrir qu'au fond de la conscience, il y a un centre qui est permanent et qu'on appelle le soleil. Alors ça, c'est le soleil qui est là. Ça correspond à ce soleil-là, dans le soleil de la Terre. Au fond de nous, il y a quelque chose qui ne bouge pas, qui est un centre. Le moi n'est pas un centre. Ce centre de conscience qu'on appelle le moi, il se déplace tout le temps. Et graduellement, il s'approfondit pour arriver à ce soi. Et le soi, c'est pas la fin du monde, le soi. Il faut le soi. Il n'y a pas de permanence que dans le soi. Il y a de permanence en rien que dans le soi. C'est ce qui est en nous. Reste toujours le même, alors que le moi demeure encore toujours différent. Le moi, c'est la partie toujours différente du soi, et le soi, c'est la partie jamais différente du moi. Mettons ça comme ça. Mais une fois que vous avez trouvé le soi, à ce moment seul, pouvez-vous trouver Dieu. Parce que le soi est seul, lui, celui qui tourne autour de Dieu, le moi, non? C'est le soi, c'est-à-dire le soleil, qui tourne autour du super-soleil. Et le moi suit le mouvement simplement parce qu'il tourne autour du soi. Donc, du moi au soi, et une fois que vous avez trouvé le soi, vous découvrez qu'il y a un monde encore plus grand qui se révèle, c'est le monde du super-soi, c'est le monde de Dieu. Voilà. Voilà le rapport de hiérarchie entre 1, 10, 9. Donc, c'est la maison finale de l'astrologie, c'est la maison finale du monde. C'est la maison 9. De notre monde, c'est la maison finale. Donc, c'est l'exaltation de Neptune la plus haute des valeurs de l'être. N'importe où, n'importe quand. La plus haute des valeurs de l'être. Je représente le soleil ici. Je représente le super soleil là, avec une barre dessous. Et notre soleil va autour de lui en 25 900 et quelques années. Il prend donc les 12 maisons du super soleil, car c'est le même zodiaque. La loi de développement, de cheminement d'alpha à oméga, c'est toujours la même formule dans tous les mondes. Et alors, il suit ce mouvement, et quand il change de maison, du soleil, il change de signe soleil, du super soleil, il passe notre soleil, attribut du super soleil, lui-même, il passe par certains changements d'expérience, qui est communiqué à toutes ces planètes, qui elles courent tout autour de lui, qui sont ses attributs, qui sont des extensions de lui-même, d'ailleurs, pas autre chose. N'est-ce pas? Ce sont ses extensions. Et alors, elles vont dans ce sens, alors que lui va dans celui-là. C'est la valeur de tout ce qui est converse en astrologie. Alors, celui-là, c'est l'intégration au super-soi. Et celui-là, c'est grâce à la force de cette intégration, par la converse, c'est la puissance de manifestation de l'intégration dans un monde qui est encore en dehors de l'intégration et qui nous est représenté finalement par la Lune. Donc, la Lune représente le terme d'un champ d'expérience, songé au mot expérience. Le mot expérience, parlant le terme d'un champ d'expérience dans lequel nous ne pouvons aller que par les mouvements directs qui sont ceux des planètes, et cette rotation dans le sens contraire à l'aiguille du monde, mais dont l'énergie motrice derrière, c'est le mouvement converse. À mesure que le soi obéit à Dieu, au super-soi, le moi reçoit du soi l'énergie qu'il faut pour commander le monde qui est extérieur à lui et dont l'extérieur s'étend jusqu'à la Lune. Le soi directement ne fait rien. Il ne peut pas. Il est un centre de nous-mêmes. Mais il se sert du moi comme d'un levier, d'où le béni. Il se sert du moi comme d'un levier pour annexer, pour entreprendre le monde extérieur à lui dans lequel il est un missionnaire. Le monde extérieur à nous, qui est le monde de notre monde conscient, face à nous-mêmes, en dehors de nous-mêmes, c'est l'Afrique noire, dans laquelle les missionnaires chrétiens vont. Mais les missionnaires chrétiens ne trouvent pas leur puissance essentielle dans leur christianisme simplement, ils le trouvent dans le Dieu du christianisme. que c'est le rapport super-soleil, soleil et ascendant. Et lui. Ce double mouvement là qui explique tous les mouvements contre l'aiguille du monde, ce sont des mouvements vers l'extension de conscience, vers l'absorption de l'inconnu de cette conscience particulière, tandis que le mouvement dans le sens de l'aiguille du monde, dit le mouvement converse, c'est le mouvement d'assimilation et de digestion. Pour un mouvement comme ça, il faut un mouvement comme ça. Remarquez que quand vous pensez, vous faites un mouvement dans le sens contraire à l'aiguille du monde. Lorsque vous allez chercher l'objet de votre pensée. Mais une fois que vous l'avez trouvé, vous faites un mouvement de réflexion et d'abstraction, qui est le mouvement converse, et c'est le mouvement dans le sens de l'aiguille du monde. Et vous revenez à vous par ce mouvement-là, mais vous sortez de vous par ce mouvement-là. Toute extroversion est contraire au mouvement du monde, toute introversion est dans le sens de l'aiguille du monde. Et voilà de nouveau le rapport sidéral de la pensée avec tout ça. Alors, vous avez le super-soleil, il y a toute espèce de raison de penser que c'est un des astres de la grande ours. Et voilà pourquoi l'antiquité chinoise, la très haute antiquité chinoise, l'âge d'or de l'humanité, semble avoir donné à la constellation de la grande ours une valeur très mystérieuse, très sacrée. Je crois que c'est la constellation que l'âge d'or de l'humanité a dû considérer comme la plus sacrée de toutes les constellations. Je ne dis ça que pour mémoire, je ne veux pas presser le point, je ne saurais pas vous en donner la démonstration tangible. Et d'ailleurs, peu importe, c'est tout à fait secondaire. Le fait est que les astrologues oublient qu'après tout, il faut justifier la réalité d'une neuvième maison. À quoi se raccorde-t-elle? Et qu'il est impossible de la raccorder à n'importe quoi qu'à un soleil autour duquel tourne notre soleil. Il n'y a pas de logique à ça autrement. Et il n'y a aucune raison de l'appeler la maison de la religion et la maison de l'enthousiasme et du feu divin qui n'est pas le feu solaire. Car le feu du Sagittaire, le feu du soleil brûle et consume. Mais le feu du Sagittaire brûle, mais ne consume pas. Il ne consume pas. C'est le feu divin. La flamme dans le buisson ardent ne le brûlait pas. Il l'éclairait, mais il ne le brûlait pas. C'est donc une flamme qui ne connaissait pas la résistance. Et quand la flamme ne connaît pas de résistance, nous avons devant nous... Nous n'avons plus donc une croix, et donc Neptune est exalté, puisque toute la croix était absorbée dans le tout. Encore une image de ça, si vous voulez, c'est M. Dupuis qui vient à un architecte et qui lui dit, voilà, faites-moi une fabrique nouvelle. Il me faut une fabrique pour tant d'ouvriers, pour tel matériel, pour tel genre de machine, pour l'amener de cette marchandise, pour l'exportation de cette marchandise, l'entrée et la sortie, il me faut toute espèce d'étage et d'aile. Et l'architecte va lui demander, et le but de tout ça? Ah, mais le but de tout ça, c'est que nous avons à produire quelque chose d'une valeur tant et d'une quantité tant. Qualité tant, quantité tant. Voici maintenant des valeurs abstraites, quantité, qualité. Ça n'a rien à faire avec la chose elle-même, c'est la qualité et la quantité. Et dans un temps donné, le facteur temps va jouer maintenant. L'architecte, bon, il fait des plans. Quand il fait des plans pour ceci, il emploie sa troisième maison, c'est-à-dire il emploie le mercure dans le sens de la manifestation, qui descend dans les choses, qui s'en fait des représentations, des transformations et des liaisons. Et il travaille à ça ainsi. Mais tout le temps, il se rappelle le but de tous ces travaux qu'il fait comme ça dans sa pensée. Et le but, c'est ce que M. Dupuis lui a dit. Qualité, quantité et temps. Et là, il revient en arrière, il revient à l'abstraction derrière, qui dit, tout ça, c'est pour. Je descends dans tout ça. Je manifeste tout ça, mais c'est pour quelque chose qui est ici. Autrement dit, le général en chef, on l'atteint par un mouvement converse, les capitaines et les caporaux, et les colonels vont l'atteindre par un mouvement converse, et ils vont à l'adversaire par le mouvement direct. Est-ce que je me fais comprendre, monsieur Dupuis?
Oui, monsieur
Moitié. Moitié. Oui, évidemment. C'est très nouveau, ça. Ça nous paraît un peu fumeux.
Oui, oui, très nouveau. Et puis alors, ce qui me gêne énormément, c'est que ce n'est pas du tout en rapport avec ce que vous enseignez de l'astronomie.
Ah, mais si.
Un super-soleil, ça se saurait.
Mais non, cher monsieur, mais non, mais non, mais non. Mais non, mais non, alors je suis très content que vous dites que ça vous gêne énormément. Je vous assure que je suis aussi, que je savais assez d'astronomie pour savoir que je barbote l'astronomie tout le temps. J'ai tout le temps les meilleurs ouvrages américains et français là-dessus. Et je vous assure que les astronomes eux-mêmes, il y en a quelques-uns en Angleterre et en Amérique, qui naturellement se sont posé la question du mouvement du Soleil. On sait que le Soleil a un mouvement formidable, n'est-ce pas? On le sait. Et ce qu'on dit en général, c'est que son mouvement est dans la direction de la constellation d'Hercule. Ouais, voilà, vous voyez que je le sais bien. Mais de dire qu'il est dans la direction de la constellation d'Hercule, c'est évidemment que l'homme sur Terre a une difficulté effroyable d'attraper une perspective suffisante sur le mouvement du Soleil dans le court laps de temps que l'homme connaît l'astronomie moderne, n'est-ce pas, c'est-à-dire quelques siècles, disons 2000 ans. Alors qu'est-ce que 2000 ans pour le mouvement du Soleil, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que la courbe du Soleil? Si sa courbe, disons, est de 26 000 ans ou 27 000 ans, que ça représenterait une spirale.
Ah oui, bon, ces gens, c'est déjà qu'ils ne tournent pas autour d'une constellation de 26 000 ans, ils ne tournent pas autour de la constellation Mercure de 26 000 ans.
Ah non, ça on sait.
Ils se dirigent pratiquement en ligne droite, et il faudra un temps probablement plus considérable pour l'atteindre en ligne droite.
Pour atteindre la constellation d'Hercule. Ah ben, je comprends.
Oui, pas pour le temps, jusqu'à nouvelle.
C'est simplement une façon de parler.
Oui, mais jusqu'à nouvelle informée, il n'est pas question d'un mouvement circulaire autour de quoi que ce soit.
Et pourtant, monsieur, regardez les photographies qui représentent le mouvement